Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Les Paractualités. Non, ça c'est à 11h30. C'est ça quand on anime deux émissions. Alors, c'est bien le quotidien des quotidiens du 17 mai 2018. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Bonjour, celui qui me regardait avec des gros yeux, mais avec Maurice Bolduc.
Oui, bonjour.
Alors, Maurice, la musique est forte, hein?
Non.
Ouais, moi, je trouve. Dans mes oreilles, en tout cas, ça éclate. Alors, les paractualités, ça, c'est pour plus tard, mais pour l'instant, ce sont les éphémérides. Est-ce qu'il y a des choses importantes à souligner en ce 17
oui,
mai?
Oui, 17 mai, quelques journées internationales. C'est la journée mondiale des télécommunications aujourd'hui. La journée mondiale des télécommunications marque la célébration de deux événements importants pour l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. De la naissance du télégraphe aux communications par satellite et à l'Internet, en passant par la radiodiffusion sonore et télévisuelle, les travaux de l'Union contribuaient à tirer parti des potentialités scientifiques et technologiques pour répondre à un besoin fondamental de l'homme, celui de communiquer. Puis comme on fait de la radio, ben, je pense que c'est une bonne place pour communiquer. C'est la journée aussi la journée mondiale contre l'hypertension, donc on prend ce relax. Et aussi très important, c'est la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie aujourd'hui, en ce 17 mai. Et j'ai su tout à l'heure, c'est une journée qui a été créée au Québec.
Ah oui?
Par Laurent McEachlin, qui lui, qui était à Gay Écoute durant longtemps là, pour sensibiliser les gens sur le phénomène, sur la cause. Donc, et maintenant, c'est rendu partout international, invention québécoise. En ce 17 mai, on va commencer par le plus récent jusqu'au plus vieux aujourd'hui. En 2007, le CRTC refuse au réseau généraliste des redevances du câble, mais autorise que la réclame publicitaire passe en septembre de la même année de 12 à 14 minutes l'heure, soit sans limite en septembre 2009. En 2004, l'État du Massachusetts devient le premier État des États-Unis à légaliser le mariage entre deux personnes du même sexe. En 1997, Laurent-Désiré Kabila se proclame président du Zaïre, qu'il rebaptise République démocratique du Congo. En 1990, justement, c'était la suppression de l'homosexualité de la liste des maladies mentales de la Classification internationale des maladies, publiée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En 1995, Jacques Chirac devenait le cinquième président de la Ve République française. En 1939, le roi George VI et la reine Élisabeth arrivent à Québec pour une première visite au Canada d'un souverain. En 1756, une guerre débute entre l'Angleterre et la France, et c'est à ce moment-là que la France perdra le Canada. En 1642, Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, et Jeanne Mance fondent Ville-Marie en Nouvelle-France, qui deviendra la ville de Montréal. Quelques naissances. Le médecin anglais Edward Jenner, un pionnier du vaccin. En 1904, lui était né en 1749. En 1904, Jean Gabin, acteur français qui nous a quittés le 15 novembre 1976. Le compositeur français Éric Satie naissait en 1866. Henri Bergeron, l'animateur de télévision canadienne, lui, naissait en 1925.
Monsieur Bon Dimanche.
Oui, absolument. Il a animé très, très longtemps.
Ah ouais.
Les Beaux Dimanches. Et on souligne deux décès. Le hockeyeur canadien Hector Toblake nous quittait en 1995. Il est un ancien un joueur et aussi entraîneur du Canadien de Montréal dans les années 50, un truc du genre. Et en 2012, j'étais pas né, donc...
Mais vous connaissez Shakespeare quand même.
Oh oui, mais je n'étais pas né. Donc en 2012, Donna Summer aussi nous quittait, donc elle suite à un cancer.
Du poumon.
Oui.
Pas vieille, hein? 47 ou 49 ans, une
environ,
chose comme ça?
Oui, assez jeune, oui.
La reine du disco, une voix fantastique.
Ouais,
merci, Maurice.
Plaisir.
À la une de la presse, c'était comme un gourou. L'entraîneur de gymnastique de haut niveau, Michel Arsenault, a été accusé hier d'agression sexuelle et de voies de fait sur six mineurs. Une plaignante se confie à la presse. Je n'obtiendrai jamais le même traitement. Françoise Abanda se dit victime de discrimination raciale. La chronique de Patrick Lagacé intitulée « Ce que j'ai appris en Israël ». médecin canadien atteint par balle à Gaza, nous portions nos uniformes médicaux. Et recharge des véhicules électriques, Hydro va tapisser le territoire de bornes rapides. Ottawa oppose une fin de non-recevoir à Québec, perception des impôts fédéraux. Le gouvernement Trudeau est réfractaire à l'idée de transférer au Québec la responsabilité de percevoir l'impôt fédéral des contribuables québécois, insistant surtout sur la perte d'emplois bien rémunérés dans les centres fiscaux situés dans des régions comme Shawinigan et Jonquière qu'une telle décision causerait. Et si le gouvernement du Québec souhaite une déclaration de revenus unique et faciliter la vie des contribuables québécois, il devrait plutôt envisager d'abandonner sa propre déclaration, estime Ottawa, qui compte déjà une expertise dans l'administration des taxes et impôts provinciaux et territoriaux. Depuis quelques semaines, l'idée de permettre aux contribuables du Québec de produire une seule déclaration de revenus fait son chemin. Sur la scène fédérale, le nouveau Parti démocratique a appuyé cette idée lors de son dernier congrès national, tenu à Ottawa en février, tandis que les militants québécois du Parti conservateur ont aussi approuvé cette option durant le Conseil général qui a eu lieu la fin de semaine dernière à Saint-Hyacinthe. Alors, allons-y avec la crise du recyclage. Montréal paiera jusqu'à 29 millions pour la survie de son centre de tri. L'administration Plante devra verser jusqu'à 29,2 millions pour éviter que son centre de tri ferme et que les matières recyclables prennent le chemin du dépotoir. Devant la crise du recyclage frappant l'ensemble du Québec, les villes québécoises demandent l'aide de Recyc Québec pour trouver de nouveaux débouchés, a appris la presse. Principal importateur de matières recyclables du monde, la Chine a sévèrement resserré au début de l'année ses critères concernant ce qu'elle acceptait de recevoir. Ce changement a eu d'importantes répercussions sur le Québec, qui y envoyait la quasi-totalité de son papier et de son carton recyclé, lesquels n'y sont plus acceptés. Leur prix, sur les marchés ayant chuté, les divers centres de tri doivent depuis composer avec de grandes quantités de matières recyclables pour lesquelles ils ne trouvent pas preneur, en plus de vivre d'importantes difficultés financières. L'impact est majeur pour Montréal. Jusqu'à récemment, la vente du papier et du carton recyclable générait des profits, la métropole ayant encaissé 5,8 millions au cours des 10 dernières années. Radio-Canada a été récemment victime d'un vol de matériel informatique qui pourrait mettre à risque les renseignements personnels et informations financières de quelque 20 000 employés anciens, actifs et contractuels de la société d'État. La nouvelle a été communiquée hier, mais bien peu de détails sur l'événement ont été révélés. Radio-Canada CBC confirme avoir été la cible d'une introduction par effraction. Le lieu, la date et la nature de l'équipement dérobé ne sont pas dévoilés pour ne pas nuire à l'enquête lancée par la police locale. L'intrus est connu de la police locale, a confirmé le porte-parole Douglas Shaw. Le vol a été capté par nos caméras de surveillance. Le suspect, qui ne fait pas partie du personnel de Radio-Canada, n'a volé qu'une seule pièce d'équipement informatique. Rien n'indique pour l'heure que la personne connaissait la teneur des informations qui y étaient enregistrées. Rien ne permet non plus de croire que l'individu a pu avoir accès aux données ou qu'il ait pu les utiliser. L'équipement volé, bien que protégé par mot de passe, pourrait contenir des fichiers électroniques, notamment certains renseignements personnels de nature financière. Même si aucune tentative d'accès aux données personnelles n'a été portée à notre connaissance, je tiens à ce que vous soyez au courant des risques éventuels et des mesures que nous prenons à cet égard. Pouvait-on lire ou peut-on lire dans un communiqué signé Judith Purves, vice-présidente principale et chef de la direction financière de Radio-Canada? J'ai parlé de communiqué, c'était plutôt un message interne envoyé hier après-midi par la vice-présidente principale et chef de la direction financière. Alors qu'il n'était qu'une soixantaine l'an dernier, le Tour du silence a réuni cette année quelques 400 cyclistes à Montréal. La mort tragique du cycliste de haut niveau Clément Ouimet a bouleversé le monde du cyclisme le 4 octobre dernier. Au total, 11 cyclistes ont perdu la vie sur les routes du Québec en 2017, selon le bilan de la SAAQ, la SAAQ. Les participants ont levé leur casque en hommage aux disparus en observant une minute de silence. C'est la mère de Clément Ouimet, Catherine Bergeron, qui agit à titre de porte-parole du Tour du silence de Montréal. « On était rendu là », a-t-elle confié à la presse. Sa famille et plusieurs amis ont participé à l'activité commémorative. « On était rendu à faire quelque chose de positif avec cet événement qui n'a pas de sens. » L'activité est aussi un moment pour sensibiliser les usagers au respect du Code de la sécurité routière, parce que les accidents graves sont souvent liés à des comportements fautifs. Partout au Québec, des cyclistes ont participé au Tour du silence qui se tenait hier simultanément dans 23 villes québécoises. En toute fin de mandat, le gouvernement Couillard ressuscite le commissaire à la santé et au bien-être, un chien de garde dont il avait annoncé l'abolition dans la controverse il y a 2 ans. Philippe Couillard avait créé cet organisme en 2005 au moment où il était ministre de la Santé. Or, 11 ans plus tard, son gouvernement a invoqué des raisons financières pour le supprimer. Le budget du commissaire s'élevait à 2,7 millions de dollars par année. Plusieurs groupes avaient dénoncé la mesure, accusant Québec de vouloir museler la critique. Le gouvernement a annoncé hier sa décision d'amender son projet de loi et de renoncer à l'abolition du poste de commissaire. Une négociation gagnante du PQ a permis d'annuler l'abolition, s'est félicité la porte-parole du Parti québécois en matière de santé, Diane Lamarre. La ministre du Travail, Dominique Vien, n'a pas l'intention d'accéder à la demande de l'Association des restaurateurs du Québec, ARQ, qui réclame le droit de gérer la distribution des pourboires. Une façon pour eux de compenser les faibles salaires des employés qui travaillent dans les cuisines. Le partage des pourboires, c'est déshabiller Paul pour habiller Jean, a dit l'attachée de presse de la ministre du Travail, Florent Tanlet. Donc, on ne le rajoutera pas. La raison pour laquelle la loi ne permet pas aux restaurateurs de gérer les pourboires, c'est que certains d'entre eux s'en gardaient dans les poches. Le ministre du Travail a toutefois proposé à l'ARC de mettre en place une table de travail pour faire un état de la situation. Cette table devra inclure des restaurateurs et des représentants des employés de service, c'est-à-dire des serveurs, a insisté l'attaché de presse de la ministre Vien. M. Tanlet a rappelé que le ministère du Travail avait déjà accepté une demande de l'ARC, donc l'Association des restaurateurs du Québec, en 2016, de limiter les augmentations salariales des employés à pourboire. L'homme de 39 ans atteint d'au moins une balle à la tête alors qu'il était assis à bord de sa Bentley décapotable lundi à Montréal et mort des suites de ses blessures, a appris la presse. Selon nos informations, Sami Moukaden était maintenu en vie artificiellement depuis les événements survenus lundi dans la rue Bélanger. Un témoin a raconté avoir vu un homme portant un capuchon s'approcher, coller une arme près de la mâchoire de l'automobiliste, puis tirer un seul coup de feu avant de prendre la fuite à pied. Une arme de poing a d'ailleurs été retrouvée, abandonnée sur le trottoir. L'enquête sera transmise aux enquêteurs des crimes majeurs du service de police de la Ville de Montréal. Cette affaire devient donc le 10e meurtre commis cette année à Montréal. Moukaden est le 2e individu possiblement impliqué dans le prêt d'argent à mourir sous les balles depuis le début de l'année. Et pour terminer, le directeur général d'Oxfam Grande-Bretagne, Mark Goldring, a annoncé hier sa démission pour offrir un nouveau départ à l'ONG, dont la réputation a souffert après les révélations d'agressions sexuelles commises par certains de ses employés en Haïti. Dans un communiqué, M. Goldring a précisé qu'il resterait jusqu'à la fin de l'année, mais qu'ensuite, il était bon que l'ONG se reconstruise avec une personne qui amènera une vision fraîche de l'énergie, avec un engagement à long terme. Oxfam avait été au cœur d'un scandale et avait perdu des milliers de donateurs après la révélation en février d'agressions commises en Haïti par certains de ses employés après le séisme de 2010. Une enquête interne avait été menée en 2011 au sujet de la mission humanitaire en Haïti et à la suite de cette enquête, 7 employés d'Oxfam avaient quitté l'ONG. 4 avaient été licenciés pour faute grave, tandis que 3 avaient démissionné, dont l'ancien directeur d'Oxfam en Haïti, Roland Van Overmeeren, qui avait notamment admis avoir engagé des prostituées.
Toute seule à l'ombre, moi je rêve de tes bras. La nuit noire s'effondre et quelques larmes dans ma voix. La route était si longue pour arriver jusqu'à toi. Et tu viens de me dire surtout ne t'arrête pas. Et je regarde encore une fois dans le miroir, je ne trouve pas de quoi te plaire. Alors j'écris des mots sans voix pour oublier que je n'ai pas de quoi te plaire. De quoi te plaire. Il y a autour de moi tous ces hommes à la file, eux-mêmes additionnés.
De quoi te plaire par Pomme qui est accompagnée des sœurs Boulay.
En une de la presse, ça c'est fait, maintenant c'est le devoir du jeudi 17 mai 2018. Une partie des humoristes qui participeront au festival Juste pour rire l'été prochain, Juste pour rire, le premier festival de l'ère post-Roson. Toujours en une du devoir, université, le financement serait lié à l'atteinte des cibles. Le mentor Serge Denoncourt dirige 30 jeunes garçons dans une adaptation du populaire film « Les choristes ». Le Monde, Trump, une réaction mesurée. Le président américain a réagi prudemment à la sortie de son vis-à-vis nord-coréen. Jean-Louis Roy prend les rênes de BANQ. Cannes, John Travolta, replonge dans ses souvenirs. Thank you. Le gouvernement Couillard prévoit la création de mandats stratégiques de 3 ans inspirés de ce qui se fait en Ontario pour chacune des universités québécoises. Selon ce qu'a appris Le Devoir, une partie du financement serait liée à l'atteinte de cibles convenues par Québec et par les établissements. L'élaboration de mandats stratégiques avec chaque établissement d'enseignement universitaire pourrait s'avérer un instrument de dialogue privilégié entre le gouvernement et les universités, indique la nouvelle politique de financement des universités que le gouvernement s'apprête à rendre publique. Les mandats stratégiques pourraient ouvrir la voie à un financement basé, du moins en partie, sur l'atteinte de cibles convenues entre le gouvernement et les universitaires, ajoute le document. Québec doit dévoiler sa nouvelle politique de financement jeudi, donc aujourd'hui. La reddition de comptes des 19 universités québécoises prendra aussi une nouvelle forme. Près de la moitié des 31 allocations spécifiques du financement vouées à une mission précise des universités sont abolies. La ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, refuse de faire tout commentaire avant la publication officielle de la nouvelle politique prévue aujourd'hui. Le Bureau de coopération interuniversitaire qui regroupe les établissements québécois attend aussi la diffusion du document avant de s'exprimer publiquement. Le milieu universitaire se demande jusqu'où ira le mécanisme de reddition de comptes. Le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières n'a jamais senti qu'il avait perdu la confiance de la ministre Hélène David, a-t-il dit mercredi, quelques heures après avoir accepté de lever le lock-out qu'il a décrété le 2 mai dernier. C'est plutôt la menace d'une loi spéciale brandie par le premier ministre Philippe Couillard lors d'un entretien téléphonique mercredi matin qui a poussé Daniel McMahon à lever le lock-out qui affectait 445 professeurs. Philippe Couillard et Hélène David m'ont réitéré leur pleine et entière confiance, ainsi qu'au conseil d'administration, a-t-il déclaré. Le recteur a dit avoir obtenu de la part du premier ministre un engagement ferme d'adopter une loi spéciale d'ici la fin de la législature le 15 juin, si les négociations n'aboutissent pas. C'est cette possibilité, comme une épée de Damoclès, qui permettra aux partis de s'entendre, croit le haut dirigeant. Et pour terminer sur cette nouvelle, la ministre responsable de l'Éducation supérieure, Hélène David, n'a pas attribué le dénouement de la journée à la menace d'une loi spéciale, mais bien à la multiplication des interventions. L'ex-entraîneur de gymnastique Michel Arsenault a été arrêté mercredi pour une série d'agressions sexuelles commises à Montréal à la fin des années 1980 et au début des années 1990. L'homme de 56 ans était visé par un mandat d'arrestation. Il a été localisé et arrêté chez lui à Edmonton, en Alberta. Arsenault devra faire face à 7 chefs d'accusation, soit trois d'agressions sexuelles et 4 de voies de fait. Une présumée victime aurait donc à la fois subi des voies de fait et une agression sexuelle, a souligné Mme Bilodeau, Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la SQ, la Sûreté du Québec. À 2 semaines du vote de confiance auquel se soumettra Martine Ouellet, la chef du Bloc québécois perd de nouveaux appuis aux instances du parti. Le trésorier Jules Gagné a annoncé sa démission de son poste mercredi matin alors que presque au même moment, l'aile jeunesse du Bloc retirait son soutien à la chef. C'est d'ailleurs ce désaveu des jeunes bloquistes qui a convaincu le trésorier du Bureau national du Bloc, Jules Gagné, de quitter ses fonctions. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, a-t-il le confié au Devoir. Les précédents désaveux de la chef de la part de la vice-présidente du parti, Kédina Fleury-Sanson, qui a quitté ses fonctions il y a 2 semaines, ou de membres de la permanence où les directeurs généraux se sont succédés depuis 1 an, préoccupaient M. Gagné. Mais il avait jusqu'ici choisi de rester en poste. « Quand les jeunes décident de lâcher Martine, pour moi, c'est comme le dernier clou du cercueil. » Le fils du député conservateur Luc Berthold a été accusé de trafic de crack par la pardonnez-moi. Je reprends, le fils du député conservateur Luc Berthold a été accusé de trafic de crack par la police de Thetford Mines. David Berthold, 21 ans, était recherché par les autorités à la suite d'une perquisition il y a 10 jours dans une résidence de Thetford Mines, où les policiers avaient trouvé du crack et du matériel servant à la fabrication de cette drogue. Le fils Berthold a été arrêté au volant de son véhicule lundi soir, alors qu'il était en possession de cannabis et d'une poudre blanche s'apparentant à de la cocaïne, selon la police locale. Les Montréalais qui possèdent déjà un cochon nain ou miniature à la maison pourront le garder. Le comité exécutif a donné son aval mercredi à l'ajout de cette espèce à la liste des animaux permis en vertu du règlement sur le contrôle des animaux. Le mois dernier, le cochon Babe avait fait les manchettes après que sa propriétaire, une résidente de Schlaga-Maisonneuve, eut reçu la visite de la patrouille canine qui l'avait nommée, sommée de se départir de son animal. Valérie Plante avait promis de trouver une solution pour Babe. Les documents fournis aux élus précisent que les propriétaires de cochons devront obtenir un permis et démontrer qu'ils avaient leur animal lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance. Les cochons gardés comme animaux domestiques ne doivent pas avoir un poids dépassant 60 kg à l'âge adulte et ne pourront fréquenter les aires d'exercice canin. Entre 8 000 et 9 000 membres des forces de l'ordre seront déployés pour la sécurité du sommet du G7 qui aura lieu au manoir Richelieu de la Malbaie dans la Charlevoix les 8 et 9 juin. C'est ce qu'ont indiqué les autorités lors d'une conférence de presse à Québec mercredi après-midi. Ces données ne tiennent pas compte des militaires qui seront également déployés pour l'occasion. Ce type de forum est habituellement la cible de contestataires, que ce soit des anticapitalistes, des groupes anti-pauvreté, etc. Mais le chef de police de Québec, Robert Pigeon, a précisé que l'indice de menace est actuellement évalué à modéré. Merci d'écouter le Canal M de Vues et Voix. Hélène Denis qui vous accompagne. Restez avec nous pour la suite de l'émission.
Plus rien ne vient.
j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai qu'un oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli. Dans mon cœur si lourd, et pourtant j'attendrai ton retour, et pourtant j'attendrai ton retour, et pourtant j'attendrai.
Ibrahim Malouf, qui était avec Mélodie Gardot, nous chantait « J'attendrai ».
À la une du Journal de Montréal, médecins de famille, la moitié travaille 4 jours et moins. Les médecins omnipraticiens ont obtenu d'importantes hausses de salaire, mais ils travaillent moins qu'avant. En 2015, le ministre Gaétan Barrette voulait les pousser à pratiquer en moyenne 210 jours par année, mais ils en ont travaillé seulement 190 l'an dernier. Publicité libérale chez Revenu Québec, c'est une chronique de Michel Girard. 375e, un an plus tard, la recette du gâteau des Montréalais. Abanda a raison d'être vigilante, c'est la chronique de Régent Tremblay. L'éolien le plus cher en Amérique du Nord est au Québec. Deux mois d'enquête pour le reportage sur Théo Taxi. Le reportage sur la zizanie qui s'est installée chez Théo Taxi, publié dans notre section Argent d'hier, a nécessité 2 mois de travail journalistique avant d'aboutir à la une. Nous tenons à le préciser ce matin en réponse aux graves accusations portées hier au sujet de notre intégrité par le nouveau président de campagne du Parti libéral du Québec, Alexandre Taillefer. Au micro de Paul Arcan, au 98,5 FM, c'est Danny Doucet, rédacteur en chef, qui signe cet article. M. Taillefer laissait clairement entendre que ce reportage ou son traitement aurait pu avoir été influencé à des fins partisanes par le patron de Québécois, Pierre-Carl Péladeau, ex-chef du Parti québécois, comme tout le monde le sait. Malheureusement, pour la théorie du complot échafaudée par M. Taillefer, nous travaillons sur ce dossier depuis la fin mars grâce aux confidences d'une première source. C'était donc presque 2 mois avant que M. Taillefer surprenne bien du monde en annonçant son ralliement au Parti libéral. Je n'ai pas tout lu l'article signé M. Doucet, mais je vais lire la chronique dans Opinion de Claude Villeneuve intitulée « À l'intention de M. Taillefer ». Alexandre Taillefer a laissé entendre hier que les chroniqueurs qui écrivent dans le journal devaient s'interroger sur leur impartialité. Il se demande si la position éditoriale des médias de Québécois est en phase avec les positions politiques bien connues de son propriétaire. Après nous être bien interrogés, nous avons décidé de lui répondre. Nous informons d'abord M. Taillefer que le journal n'a pas de ligne éditoriale conformément aux souhaits de son fondateur, Pierre Péladeau. Le seul mot d'ordre que nous avons, c'est celui de la diversité des idées. Nos lecteurs trouvent dans nos pages des points de vue souverainistes et fédéralistes, tantôt de droite et tantôt de gauche. Nos chroniqueurs n'ont d'ailleurs pas la prétention d'être impartiaux, comme c'est plutôt le devoir des journalistes de nos salles de rédaction. le journalisme d'opinion poursuit une finalité différente. Nous le rappelons à M. Taillefer, dont l'intervention soulève des questions quant à son propre rapport avec les artisans des journaux qu'il possède. Chaque jour, nos chroniqueurs écrivent sur le sujet de leur choix. Laisser entendre que le propos de ces professionnels d'expérience est téléguidé par notre propriétaire est une insulte envers leur intelligence et leur intégrité intellectuelle. Dès le jour suivant l'annonce par M. Taillefer du rôle qu'il jouerait pendant la campagne électorale, il se plaignait d'être l'objet d'acharnement médiatique. Peut-être pense-t-il que nous ne devrions pas soulever les contradictions entre ses positions politiques et nous questionner sur les conflits qui pourraient survenir entre ses intérêts d'affaires et son implication partisane. En somme, M. Taillefer réclame une forme d'immunité. Nous sommes au regret d'informer M. Taillefer que la réalisation de ses ambitions politiques promet de revêtir des aspects particulièrement pénibles pour lui s'il maintient de telles attentes face aux médias. Pour sa propre sérénité et celle du travail journalistique, nous lui souhaitons de se doter d'une carapace et surtout qu'il le fasse rapidement. Toujours dans les opinions, constat d'échec, c'est José Legault. L'immigration s'annonce comme un des thèmes de la campagne électorale. Première dans les sondages, la CAQ saute à son tour sur ce terrain. Notre collègue Alec Castonguay de l'actualité révélait les grandes lignes de l'offre caquiste. Réduction temporaire des seuils d'immigration, création d'un droit à la francisation obligeant l'État à fournir les ressources nécessaires, employabilité, accompagnement personnalisé. L'approche est certes imparfaite, mais elle est étayée et flexible. Quant au Parti québécois, il mise entre autres sur une immigration déjà francophone. Bref, présumons de la bonne foi des deux partis pour leur volonté d'agir sur un terrain laissé en jachère depuis trop longtemps. Car si débat il y a encore, c'est que nous sommes face à un immense échec politique. Depuis 20 ans, rouge ou bleu, les gouvernements ont abdiqué leur responsabilité de voir à une intégration proactive des immigrants. Surtout, ils ont oublié l'essentiel, soit que pour le seul État francophone d'Amérique, la vraie manière d'assurer une intégration réussie est de bâtir une société où, pour reprendre le concept clé de la Charte de la langue française, la loi 101, le français serait la langue normale et habituelle au Québec, tout comme l'anglais pour le reste du Canada. Or, malgré les voyants jaunes qui s'allumaient déjà dans les années 90 sur le recul du français, les gouvernements ont refusé de renforcer une loi 101 pourtant affaiblie à répétition par les tribunaux. Résultat, dans la grande région de Montréal où la plupart des immigrants s'installent, ils ont laissé les milieux de travail se bilinguiser. L'État a bilinguisé ses propres communications avec les citoyens. Idem dans les commerces, l'affichage et l'éducation supérieure. Au lieu de renforcer la francisation tout en encourageant le multilinguisme individuel, l'État jure vouloir franciser les immigrants. Mais par son inaction, il les plonge dans une métropole bilingue, où même un boulot au salaire minimum exige la connaissance de l'anglais. Cherchez l'erreur. Montréal a payé 750 000 $ pour 207 drapeaux inutilisés. Achetés pour le 375e anniversaire de Montréal, ils dorment présentement dans un entrepôt. C'est la Société des célébrations du 375e anniversaire, dis-je bien, l'organisation mandatée par l'administration Coderre pour organiser les fêtes de 2017 qui a acheté ces drapeaux. L'été dernier, ils ont été installés sur plus de 1 km le long de la rue Sherbrooke près du Musée des beaux-arts de Montréal. Chacun hissé sur leur base de béton surmontée d'une large tige de métal, ils représentaient les 192 pays du monde, les 14 provinces et territoires du Canada, ainsi que la ville de Montréal. Leur installation, qui se voulait un hommage à Expo 67, s'inscrivait dans le cadre du projet « Balade pour la paix », orchestré par le Musée des beaux-arts de Montréal. Le concepteur du projet, Claude Cormier, estime pour sa part que les drapeaux ont coûté 750 000 $, comprenant l'installation et le démontage. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, ça me déçoit. Les gouvernements municipaux, c'est une grosse machine que nous ne contrôlons pas. J'aimerais bien que ça puisse renaître quelque part un jour. Il ne faut juste pas les oublier, a dit M. Cormier. Linda Boutin, porte-parole de la Ville, indique que les drapeaux seront encore entreposés pendant au moins cet été. Le temps que la Ville trouve un site autre que la rue Sherbrooke pouvant les accueillir de façon permanente. Elle soutient que les drapeaux devaient être retirés puisqu'ils rendaient impossible le déneigement de la rue Sherbrooke. Le Guatemala a inauguré hier à Jérusalem sa nouvelle ambassade en Israël, emboîtant le pas aux États-Unis dans une démarche de rupture diplomatique qui ulcère les Palestiniens. Le Guatemala est devenu le deuxième pays à transférer sa représentation diplomatique à Jérusalem, quand son président Jimmy Morales et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont ouvert la nouvelle ambassade dans une tour moderne et excentrée du sud de Jérusalem. La direction palestinienne a accusé le gouvernement guatémaltèque de se placer du côté des crimes de guerre israéliens. La cérémonie au troisième étage d'une tour est loin d'avoir suscité le déploiement sécuritaire et médiatique de l'inauguration américaine, et plus encore de retenir l'attention des Palestiniens.
Bye.
On vient d'entendre une artiste originaire du Bénin. Maintenant, elle reste à Montréal. Elle s'appelle Karine au micro. C'était la pièce Mano Te Pao.
Unis pour adopter un Béluga, c'est dans le quotidien Jonathan Hudon. Il n'y a pas d'âge pour avoir une conscience environnementale. La preuve est que 14 élèves de l'école des 80 de Chicoutimi-Nord participent à la campagne « S'unir pour leur avenir », dont l'objectif est d'adopter un Béluga du Saint-Laurent, une espèce marine en voie de disparition. L'école primaire et l'organisme de bassin versant du Saguenay, OBV Saguenay, ont procédé au lancement de cette campagne mercredi midi. La secrétaire de direction d'organisme de bassin versant du Saguenay, Rachel Dionne, avait tâté le pouls des membres du service de garde à l'automne grâce à la collaboration de sa responsable Marie-Ève Chiasson. C'est une campagne qui vise à lever des fonds pour soutenir la recherche sur le Béluga dans le but de mieux comprendre les causes de son déclin, a expliqué Rachel Dionne. La recherche scientifique est réalisée par le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, GREM, basé à Tadoussac. L'objectif est de sensibiliser la population du Saguenay et même au-delà à la situation du Béluga du Saint-Laurent qui est en voie de disparition. L'idée des deux partenaires est donc d'adopter collectivement un Béluga, un geste qui permet de financer la recherche sur le mammifère marin. Le GREM dresse un portfolio des Bélugas disponibles à l'adoption, ce qui fait en sorte que l'OBV Saguenay et l'École des 80 vont pouvoir choisir le cétacé qu'ils adoptent. L'adoption pour une durée d'un an représente un montant de 5 000 Si on s'aperçoit que ça prend trop de temps, on peut choisir de verser le montant au GREM et de participer à une allocation collective avec d'autres personnes qui ont amassé des plus petits fonds, a précisé Rachel Dionne. Les élèves ont été mis à contribution en découpant des capes en tissu placées sur chacun des 10 des 30 bélugas en peluche mis en circulation. Un numéro différent est inscrit sur chaque cape et le propriétaire de la peluche est invité à s'inscrire en ligne pour confirmer qu'il a bien reçu le Béluga. Il peut ainsi faire un don ou s'inscrire comme porteur pour ensuite redistribuer sa peluche dans un délai de 48 heures. On a 30 Bélugas qui vont partir à la nage et on s'attend à ce qu'ils soient transférés de main en main pendant les prochains mois jusqu'à ce qu'on ait amassé suffisamment de fonds pour adopter un Béluga, a souhaité la secrétaire de direction d'OBV Saguenay. Rachel Dionne a fait savoir qu'une telle collaboration avec une école primaire était une première du genre pour l'organisme. Enthousiasmée par l'engouement des jeunes face au projet, elle a maintenant hâte de voir jusqu'où va se rendre la campagne de sociofinancement. Normand Provencher, dans les pages du Soleil, le musée de la civilisation se met à l'heure de Big Ben et de la capitale anglaise à l'occasion de l'exposition Ici Londres, qui tiendra l'affiche jusqu'en mars 2019. Une occasion de découvrir l'effervescence de cette ville cosmopolite de l'après-guerre à nos jours, où sont nés des courants musicaux qui ont balayé toute la planète. Le directeur général de l'établissement du Vieux-Port, Stéphane Laroche, n'a pas manqué de souligner les caractéristiques uniques de la déjantée capitale britannique mercredi lors de l'inauguration de l'événement, rendu possible grâce à la collaboration de 8 institutions londoniennes, dont la Tate Gallery et le Museum of London et la supervision de la chargée de projet Caroline Lantagne. Au sol, une carte de Londres guide les pas des visiteurs. Au centre de la salle, une maquette de la City of London, cœur économique de la ville, fait office de carrefour pour partir à la découverte des différents quartiers, chacun ayant sa renommée. Chelsea, le berceau du mouvement punk, Abbey Road, lieu de pèlerinage des fans des Beatles, Soho, lieu de naissance des Swinging Sisters, Camden Town, reconnu pour ses marchés aux puces et sa culture alternative. Ère numérique oblige, le visiteur pourra compter sur une nouvelle application, mon MCQ, à télécharger sur son téléphone intelligent pour obtenir des informations supplémentaires en réalité augmentée. Dans la tribune, le photographe sherbrookois Marc Bailey a remporté le prix de photographe de l'année au Canada et le prix Youssouf Karch lors du 49e congrès des photographes professionnels du Canada qui se tenait récemment à Richmond, en Colombie-Britannique. M. Bailey avait déjà remporté à deux reprises le prix de photographe de l'année au Canada dans la catégorie portrait, soit en 2007 et 2014, mais il s'agit d'une première dans la catégorie artiste. Pour la compétition, le photographe avait soumis 4 photographies d'inspiration lugubre, voire sanglante. « Je suis un maniaque de cinéma et j'adore les films d'horreur. » Les photos sélectionnées ont été prises sur les plateaux de tournage de 3 émissions de Dossier Mystère, auxquelles j'ai participé à titre d'acteur et de photographe. Ça passait ou ça cassait. Finalement, ce qui a plu au jury est précisément le fait que mes photos soient troublantes, différente et qu'elle raconte une histoire, souligne le lauréat qui possède son studio de photographie depuis 1979. Les photographies qui lui ont permis d'être sélectionné parmi les 4 finalistes canadiens ont été prises à la prison Winter dans le grenier du Théâtre Granada et à la chapelle de l'Université Bishop. 2 images, Nightmare et Walking Dead, sont inspirées du meurtre de Mary Gallagher, une prostituée qui a été décapitée à Montréal en 1879. Les photographies Evil et Misery, ont reçu une mention coup de cœur des jurés. Par ailleurs, le prix Youssouf Karch a été remis à Marc Bailey pour l'ensemble de sa carrière et de ses réalisations. Né en Turquie, Karch a fait ses premiers apprentissages photographiques à Sherbrooke auprès de son oncle avant de se spécialiser aux États-Unis puis de s'installer à Ottawa. Donc, on dit que c'est le plus grand photographe portraitiste du 20e siècle. On parle ici de Youssouf Karch qui maintenant a un nom lié à un prix, le prix Youssouf Karch. Le Lockhart élevé, mais Brigitte Trahan dans le Nouvelliste, quelques minutes après avoir eu une discussion franche avec le premier ministre Philippe Couillard et la ministre de l'Enseignement supérieur Hélène David, le recteur de l'UQTR Daniel McMahon a annoncé la levée du lockout des professeurs mercredi avant midi. Le recteur a précisé que « nous avons tous à cœur un règlement négocié. Nous avons convenu ensemble de laisser une ultime chance à la négociation en cours. » Si la médiation n'aboutit pas à un règlement négocié et que le médiateur atteste du manque de collaboration de la partie syndicale, le gouvernement légiférera avant la fin de la session parlementaire qui se termine le 15 juin, a prévenu le recteur. Selon lui, le premier ministre et la ministre David s'y sont engagés fermement. Est-ce que l'ancienne 5e joueuse mondiale Eugénie Bouchard pourrait devenir la tête d'affiche de la prochaine édition du Challengers de Gatineau? Ce n'est pas impossible, avoue Mathieu Toupin, un des organisateurs du tournoi sanctionné par la Fédération internationale de tennis, ITF, et l'Association de tennis professionnel, ATP. La raquette québécoise a chuté de 51 places dans le dernier classement de la WTA, publié lundi. Âgée de 24 ans, Bouchard se retrouve maintenant 169e au monde. Elle n'a jamais été aussi basse dans la hiérarchie du tennis féminin depuis octobre 2012. Tôt ou tard, la finaliste de Wimbledon devra trouver une façon de refaire le plein de points. Plusieurs joueuses par le passé ont emprunté la voie des tournois Challengers sans S, pour reprendre leur place au sein de l'élite tennistique après des blessures ou une série d'insuccès. Bouchard n'est plus la joueuse canadienne la mieux cotée. Elle s'avère maintenant devancée par Françoise Abanda, 128e, qui a déjà participé au tournoi gatinois. C'est drôle à dire, mais nous pourrions avoir de meilleures chances d'avoir Eugénie que Françoise, a soutenu Toupin. Son équipe compte approcher Bouchard sous peu au sujet d'une éventuelle participation au Parc de Lille du 14 au 22 juillet. Restez avec nous à venir une chanson de Marc Derry et puis je vous parlerai culture ainsi que de sujets libres. Restez avec nous.